Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Les réformes se sont bornées à servir les capitaux étrangers et locaux. Mais en même temps, elles ont fait exploser l'inflation.
Et c'est en Égypte que nous allons dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde. L'Égypte au quotidien, vous l'avez entendu, à quelques semaines maintenant, des élections qui verront sans suspense se reconduire à Al-Sisi. Nous y allons avec Étienne Monin qui nous fera visiter la nouvelle capitale qui sort de terre, un projet à l'égyptienne, c'est-à-dire pharaonique. Je vous emmène aussi ici. C'est un ring, ça se passe au Mexique et les combats sont mixtes, hommes et femmes, pour s'échanger les coups et les douleurs. 18h45, le feuilleton environnement de Sandy Dauphin avec des moustiques tigres dont les experts se demandaient comment ils arrivaient jusqu'à nous. Eh bien, en voiture, ils font du covoiturage, c'est très sérieux. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers. Ce soir, il se met dans les chaussures de Vladimir Poutine en Syrie. Mais d'abord, je vous propose un tour d'Europe en train afin de savoir si notre réforme SNCF à venir ressemble à celle des autres et si elle a fait ou elle fait du bruit aussi ailleurs. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Allez, on l'appelle donc notre bataille du rail. On l'appelle tous comme ça parce qu'on manque d'imagination. Mais les mots privatisation, statut, privilège, grande vitesse, petite ligne sont mis à toutes les sauces depuis quelques jours et ils sont traduisibles aussi dans toutes les langues puisque beaucoup de pays d'Europe sont aussi passés par cette phase de refonte de leur système ferroviaire avec plus ou moins de bonheur. C'est bien ce qu'on va voir ensemble. Est-ce qu'on voyage mieux en train chez nos voisins? Est-ce que tout change et comment? Bonsoir à vous, Michel Kidor.
Bonsoir.
En direct avec nous de Bruxelles. Merci beaucoup à Quentin aussi qui vous a ouvert, à Quentin Dickinson qui vous a ouvert ses portes. On va prendre beaucoup d'exemples, Michel Kidor. On va essayer de voir effectivement comment ça se passe chez les voisins, comment chacun a fait sa révolution. D'abord, juste une chose, avant de partir d'abord en Grande-Bretagne, parce que c'est un peu l'exemple emblématique. Est-ce que tout le monde a fait sa révolution autour de nous, en fait? Est-ce qu'on est dans le peloton de queue ou est-ce qu'on est dans le bon train, si je puis dire?
Ah, on est nettement dans le peloton de queue. On a 20 ans de retard sur la Grande-Bretagne, la Suède, l'Allemagne, pour ne citer que ces trois grands pays européens.
Alors comment se fait-il qu'ils aient été, selon vous, est-ce que c'est nous simplement qui avons du mal à réformer ou est-ce qu'il s'est passé des choses qui ont été violentes ailleurs? Est-ce qu'on dirait ça avec ces mots-là ou plus doucement justement? Est-ce que peut-être que ça a été plus progressif?
Non, chaque pays l'a fait avec son génie. L'Angleterre, parce qu'ils n'ont aucun tabou, donc les réformes ne leur font pas peur. Mmh. Les Suédois ont fait ça très progressivement à la suédoise et les Allemands ont tiré profit de la réunification de 1989 pour, dans la foulée, enclencher une grande réforme ferroviaire dont les lois ont été publiées en 1993. Donc, vous voyez, on a quasiment, en France, 25 ans de retard sur la Grande-Bretagne et l'Allemagne.
Et est-ce que toutes les révolutions passent par les mêmes choses? C'est-à-dire, on parle de privatisation, là, pour le coup, je le disais, dans toutes les langues, mais passagers et marchandises, passagers seulement, marchandises seulement, beaucoup de lignes, pas beaucoup de lignes. Est-ce qu'il y a quand même un dénominateur commun dans les choix qu'on fait les uns les autres ou pas?
Oui, alors il y a un dénominateur commun, c'est que ça ne s'appelle pas la privatisation. Parce que dans tous les cas de figure, que vous preniez des pays comme l'Italie, où il s'est passé des choses, la Scandinavie, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, les infrastructures, les gares, les équipements restent dans le domaine public et c'est très bien comme ça. Donc on ne peut pas parler de privatisation. Les Anglais s'y sont essayés au début de leur réforme, au milieu des années 95, ils s'y sont cassés les dents. Et les infrastructures aujourd'hui en Grande-Bretagne sont retournées dans la main publique.
Alors justement, tiens, on va y aller en Grande-Bretagne. Vous restez évidemment avec nous, Michel Kidor. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Vous allez nous raconter comment ça s'est passé chez vous, parce que c'est toujours un peu l'exemple emblématique. On dit souvent que la Grande-Bretagne, c'est l'exemple à pas suivre, même. C'est,
absolument.
C'est le très mauvais exemple, c'est le contre-exemple même. Alors, racontez-nous, ça fonctionne par zone géographique. Vous parlez de privatisation, peut-être que vous avez tort, on l'a entendu un instant. En tout cas, ça s'est passé par secteur et pas forcément dans la bonne humeur, on va dire.
Absolument, c'est un petit peu différent que ce que préconise en France le rapport Spinetta ici. On a en fait une compagnie qui gère les chemins de fer du Nord, une autre le Sud, l'autre l'Ouest du pays. Tout ça fonctionne par zone géographique avec des licences attribuées par le gouvernement aux opérateurs privés à l'issue d'un appel d'offres. Et le problème, c'est que cette course à la licence aboutit à une surenchère qui est parfois un peu surréaliste parce que tout le monde veut remporter le marché et que les compagnies s'engagent à tenir des objectifs pas toujours réalistes. Je vous donne un exemple. Pour exploiter les lignes de l'Est, Virgin a proposé au gouvernement de payer près de 3,5 milliards d'euros. Mais le PDG de la filiale vient de le reconnaître. Il n'arrivera pas à payer. Il aurait fallu, pour que l'exploitation soit viable, financièrement, financièrement que le nombre de passagers augmente de 50%. Mmh. Résultat, bah, le gouvernement va maintenant renationaliser ou injecter de l'argent pour éviter que tout ça s'arrête. Et c'est pas un cas isolé. Il y a quelques semaines, c'est le même genre de scénario qui a déjà abouti à la faillite de Carillion.
Alors, mais chez vous, est-ce que cette ouverture à la concurrence a permis de faire des économies ou pas du tout?
Ça, c'est un petit peu variable suivant le prix des billets et les trajets. Mais si on compare le prix des billets il y a 20 ans et aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation, globalement, le coût des transports a explosé. C'est 40% de plus que dans le reste de l'Europe. Quand vous montez dans un wagon, il y a plein d'intermédiaires qui prennent une partie du prix du billet. Le train que vous prenez appartient à une banque, qui le loue à une société privée, qui paye une franchise au ministère des Transports. Et tout ça, c'est réglementé par un autre bureau payé par le contribuable. Vous le voyez, ça fait beaucoup d'acteurs différents.
Et pour les passagers, du coup, Antoine, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils disent surtout?
Là, c'est le gros point noir. En 2016, plus d'un train sur 10 arrivait en retard. Ça, c'est un tout petit peu amélioré. Mais le problème est le même qu'en France. On l'a dit tout à l'heure, les voies continuent d'appartenir à l'État, d'être entretenues par l'État. Certaines n'ont pas été changées depuis plus d'un siècle. Il y a un gigantesque retard d'investissement. Et même si le gouvernement a commencé à s'en occuper, la dette s'alourdit et elle va frôler l'an prochain les 60 milliards d'euros.
Antoine Gignot, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Michel Kidor, il y a une phrase qu'a citée Antoine Gignot, que j'ai trouvé moi aussi la même dans le Financial Times. Et en gros, ça donne, on prend un train en Grande-Bretagne qui appartient à une banque louée à une société privée, oui, qui a obtenu une franchise du ministère des Transports pour l'exploiter sur des rails qui appartiennent à Network Rail, qui lui-même est privé, mais dont l'État est actionnaire. Ça ressemble à une usine à gaz absolument démente, ce système, Michel Kidor.
Oui, c'est une manière de présenter les choses. Vous savez, c'est un montage qui existe ailleurs qu'en Angleterre. Je vous concède que le schéma anglais est un peu extrémiste et c'est pour ça qu'il est certainement pas emblématique et c'est certainement pas un modèle à suivre. Mais si vous allez, par exemple, en Allemagne, vous avez des opérateurs concurrents de l'opérateur national qui exploitent aussi des trains sur une infrastructure qui appartient à la puissance publique, qui loue leur matériel à une société de location, parce qu'il vaut mieux louer son matériel que de l'avoir au bilan en immobilisation. C'est effectivement pas un but en soi. Donc la réforme anglaise et les réformes qui ont suivi, la réforme allemande, ont abouti au fond à isolé dans le système ferroviaire les fonctions de manière très claire. Un peu comme dans le transport aérien. Vous avez le gestionnaire d'aéroports, les compagnies aériennes qui louent leurs avions à des sociétés de location. Vous avez la gestion du trafic. Vous avez les sociétés de maintenance. Tout ça est éclaté, mais tout ça permet d'y voir très clair et dans ce qui coûte quoi et combien coûte telle et telle activité et d'y remédier lorsqu'il y a des dérapages.
On avait dit au démarrage surtout du système anglais qu'il était dangereux. On cite beaucoup les accidents qui ont eu lieu, notamment l'accident en 2000. Est-ce que c'est toujours vrai ça, ou est-ce que l'état du rail a été suffisamment remis en place pour qu'on ne puisse plus dire aujourd'hui que les trains britanniques sont plus dangereux que les nôtres?
Ah non, alors là, effectivement, c'est une idée qu'on entend malheureusement encore de manière assez répandue. La réforme ferroviaire de 1995 en Grande-Bretagne a injecté de l'argent dans le matériel roulant, nouveaux trains, mais également dans les infrastructures qui, votre correspondant avait raison, n'avaient pas été l'objet d'investissements. Les gouvernements travaillistes ou conservateurs depuis la Deuxième Guerre mondiale n'avaient pas investi un penny dans l'infrastructure britannique. Et donc là, aujourd'hui, toute l'industrie ferroviaire européenne a tourné pour l'industrie britannique et aujourd'hui, on a, alors effectivement, le panorama n'est pas encore parfait parce qu'il y a un énorme travail, mais on a renouvelé tout le matériel roulant et les infrastructures sont en voie de modernisation. Mais je vous dis, il y a un travail énorme parce qu'on n'avait rien fait pendant 30 ans, 40 ans.
Antoine l'a évoqué à l'instant, c'est vrai que le train est très cher au Royaume-Uni, à peu près 4 fois supérieur au nôtre, peut-être un peu plus. Est-ce que ce qu'on entend sur un retour à une nationalisation ou peut-être quelque chose de partiel, c'est le cas de Jeremy Corbyn, mais pas seulement, est-ce que c'est sérieux ou pas?
Oh, alors là, moi, c'est de la haute politique politicienne britannique. Moi, je crois que le système des franchises avec une délégation de services publics à des opérateurs privés, ou publics d'ailleurs, est un bon système. Service public ne veut pas dire automatiquement entreprise publique. Donc, aujourd'hui, l'État anglais a repris la main. Effectivement, au début, les Anglais sont toujours avec leur stop and go, donc ils ont été très longs, ils ont voulu privatiser l'infrastructure, les rails, les voies, les tunnels, c'est effectivement une grossière erreur. Ils sont revenus. Maintenant, l'infrastructure est gérée par une société, bon, public, faisons simple, qui s'appelle Network Rail, et sur lequel, comme réseau SNCF Réseau, les opérateurs payent un droit d'accès pour pouvoir y rouler.
Mais pourquoi c'est
donc
si cher?
Aujourd'hui, il y a un contrôle du ministère des Transports et du régulateur britannique ferroviaire extrêmement puissant et tatillant sur la qualité de l'infrastructure et son développement.
Mais pourquoi, Michel Kidor, le train chez les Britanniques est si cher? Pourquoi c'est si cher par rapport à nous, par rapport au reste de l'Europe même?
Alors, j'ai ma petite explication. Mmh. J'ai un passé d'opérateur dans une autre vie, et je dois dire qu'en Angleterre, et je pense que votre correspondant confirmera, il y a une tradition d'avoir des transports chers. Quand vous allez prendre le métro à Londres, le ticket à l'unité, il est hors de prix. Il est à 4 ou 5 livres sterling. Les tickets de bus, c'est pareil. Donc, on a effectivement, en Angleterre, une tradition de transport cher, et aujourd'hui, je le vois. En Allemagne ou en Angleterre, le chemin de fer régional couvre entre 30 et 45% de ses coûts. Mm-hmm. En Angleterre, il couvre, le chemin de fer couvre 90% de ses coûts. Et là, c'est un choix politique qui est de faire payer par l'utilisateur et non par le contribuable le coût du système mm-hmm. ferroviaire. C'est choix politique.
Voilà, on va aller voir justement l'exemple allemand. Ce sera dans un instant. J'ai juste une question juste avant, Michel Kidor. Le statut des cheminots dont on parle beaucoup, nous, en France, est-ce que c'est une spécificité française ou est-ce que d'autres ont aussi des statuts un peu particuliers ailleurs en Europe?
Alors écoutez, on va anticiper, mais c'était le cas de l'Allemagne. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est encore le cas d'Italie. Mais aujourd'hui, en Allemagne, on va sans doute en parler l'autre partie de votre émission. Mm-hmm. Mais il y avait du personnel à statut jusqu'à la réforme ferroviaire de 1993. Et à partir de cette réforme ferroviaire, l'ADB, la SNCF allemande, n'a plus recruté des agents au statut. Et elle a recruté des agents aux conditions du marché, aux conditions du droit du travail général. Et les agents qui avait le statut de fonctionnaire, c'était encore un statut plus rigide, parce qu'il n'avait en fait, il n'avait même pas le droit de grève. Les agents DB qui avaient le statut de fonctionnaire, on en a plus recruté, et leur surcoût, ce qu'ils coûtaient en plus par rapport au marché du travail, a été externalisé vers une structure qui justement prenait en charge ce surcoût, mettant ainsi la Deutsche Bahn, la SNCF allemande, à égalité avec ses concurrents au niveau rémunération.
Allez, on y va donc en Allemagne. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Et vous allez nous raconter un peu comment ça marche dans le détail, cette réforme de la compagnie allemande, son redressement d'abord spectaculaire, faut le dire, dans les années 90, et l'exemple qu'on cite souvent quand on parle d'Allemagne. Aujourd'hui, qu'en est-il concrètement, Cyril?
Alors, c'est une réforme qui, on va le rappeler, remonte donc au début des années 90, après la réunification, au moment de la fusion entre les anciens chemins de fer de RFA et de RDA. Il a fallu tout réorganiser. Et donc, en 93-94, l'État accepte de reprendre la dette colossale de la Deutsche Bahn, l'équivalent de 35 milliards d'euros, en échange donc d'une vaste réforme. Réduction des effectifs, d'abord, de 350 000 à 220 000 personnes. Fin du statut de cheminot. Toutes les nouvelles recrues seront soumises aux règles du droit privé. Et enfin, ouverture du trafic ferroviaire à la concurrence, un peu avant tout le monde. Aujourd'hui, les conducteurs de trains allemands travaillent en moyenne un peu plus longtemps que leurs homologues français, 39 heures par semaine. Ils ont moins de jours de repos, ils partent plus tard aussi à la retraite, à 63 ans, mais en contrepartie, ils sont mieux payés que les cheminots français, jusqu'à 3 500 euros par mois.
Et alors, ce que vous dites, c'est qu'il y a un bilan contrasté de l'ouverture à la concurrence. Vous l'avez rappelé, ça commence il y a une vingtaine d'années, 94. La Deutsche Bahn, finalement, a conservé un quasi-monopole sur le trafic des grandes lignes. Pourquoi?
Alors, il y a une grosse différence entre le trafic régional, effectivement, et les grandes lignes. Au niveau régional, les compagnies privées, elles occupent désormais plus de 30% du marché. Les lenders passent des appels d'offres, les opérateurs y répondent, y compris des Français comme Transdev ou Keolis, filiale de la SNCF. Le bilan, le nombre de voyageurs a nettement augmenté. On estime aussi que ça a permis la réouverture de certaines lignes locales. Le bilan est donc plutôt positif. Mais pour ce qui est du trafic grandes lignes, la Deutsche Bahn reste effectivement seule ou presque sur le marché. Les rares à avoir tenté de se faire une place ont échoué. Il y a plusieurs explications. La Deutsche Bahn reste propriétaire du réseau ferré. Michel Kidor en a parlé. Il faut donc payer des redevances pour circuler. Mmh. Ça demande aussi de très lourds investissements matériels. Résultat, peu ou pas de concurrence sur les grandes lignes et des billets de train souvent hors de prix, il faut bien le dire, pour le voyageur dès lors que vous voulez, par exemple, vous rendre de Berlin à Cologne ou à Munich.
Et merci beaucoup, Cyril Sauvageau. Michel Kidor, est-ce que ce débat que nous avons, nous, ça rejoint ce que disait Cyril à l'instant sur les toutes petites lignes, la fermeture des toutes petites lignes, la rentabilité des toutes petites lignes, comment ça s'est réglé ailleurs?
Ah bah écoutez, excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Effectivement,
j'en ai deux
marchés ferroviaires, comme votre correspondant vient de le dire. Il y a le marché des grandes lignes, qui est un marché purement commercial, où les seules recettes sont les recettes payées par les voyageurs qui empruntent les trains. Et puis de l'autre côté, vous avez des services contractualisés, qui sont les services régionaux, et les TER allemands, eh bien, sont pilotés et financés par les lenders, par les régions allemandes. Et donc là, depuis 25 ans, les lenders ont pris la main, ont fait des appels d'offres. Aujourd'hui, il y a plus de 30% des services régionaux qui sont exploités par des concurrents de la Deutsche Bahn. Mais ce qu'il est intéressant de dire par rapport à votre question, c'est que contrairement en France, où avec le rapport Spinetta, et puis on pense que les déclarations récentes du gouvernement sont pas encore complètement claires là-dessus, on craint des fermetures de lignes, et des fermetures, ce qu'on appelle entre guillemets des petites lignes. Mmh. En Allemagne, c'est le contraire. En Allemagne, depuis la réforme ferroviaire, on a rouvert plus de 500 km de lignes et 300 gares. Donc aujourd'hui, il y a un système inverse. En France, on préconise un recentrage sur le TGV et le mass transit, c'est-à-dire les RER autour des grandes villes. Et en dehors de ça, c'est le désert français. Bonjour l'aménagement du territoire et la ruralité. En Allemagne, c'est complètement différent. On rouvre des lignes, on densifie le trafic. Et ça, c'est effectivement grâce à l'ouverture qui a permis aux régions de payer moins cher les transports ferroviaires qu'elles financent que lorsque c'était l'opérateur national. Et ce sera le cas en France aussi. Aujourd'hui, en France, les régions françaises payent deux fois plus cher le train kilomètre, le kilomètre parcouru par un train est deux fois plus cher en France qu'en Allemagne.
Mais alors, est-ce que c'est un contre-exemple, l'Allemagne? Parce que je vous pose la question parce qu'on va aller en Italie très rapidement dans une seconde, où là, on a plutôt l'impression qu'on a axé sur la très grande vitesse. Donc, l'idée de revenir à ces petites lignes et de surtout ne pas les fermer, est-ce que c'est typique à l'Allemagne? Est-ce que c'est l'exemple typiquement à suivre, là, pour le coup, du côté des Allemands ou pas?
Ah ben moi je crois que c'est l'exemple à suivre, d'autant plus que ce qu'on appelle petite ligne, il faut voir, nous à la Fédération française des associations d'usagers des transports que je représente, on a regardé, on a des petites lignes entre guillemets qu'on appelle petite ligne, mais à côté vous avez des routes où il y a 12 ou 15 000 voitures par jour. Il y a peut-être un peu de transfert modal à faire, et c'est ce qui s'est passé en Allemagne. On a transféré des automobilistes vers le système ferroviaire, ce qui est bon pour la congestion et bon pour la planète.
Allez, un tout petit dernier aller-retour vers l'Italie avec Olivier Tossé. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Vous, c'est l'acteur privé. L'acteur privé s'appelle Italo. Enfin, c'est comme ça que les Italiens l'appellent plutôt d'ailleurs. Racheté par les Américains très récemment. Italo, c'est la grande vitesse. Et on a l'impression que vous êtes le seul pays à avoir ouvert la concurrence à son réseau grande vitesse, vous, de votre côté des Alpes.
Oui, l'Italie, qui est un des derniers pays européens à avoir connu l'arrivée du TGV au tournant des années 2000, a été le premier qui a expérimenté une vraie compétition sur ces lignes à grande vitesse. C'est les lignes qui relient Turin, Milan, Venise, Bologne, Rome et Naples. Sur ce réseau, l'opérateur public Ferrovie dello Stato est concurrencé depuis 2012 par le train rouge du groupe NTV qui s'appelle Italo. Vous l'avez dit, les Italiens l'appellent Italo. Les débuts ont été marqués par des déficits importants pour l'entreprise, une concurrence féroce avec l'opérateur public historique, mais finalement la compétition a obligé les deux concurrents à la fois à améliorer la qualité du service et à baisser les prix, qui sont parmi maintenant les moins élevés d'Europe pour le TGV. NTV, au bord de la faillite, est même sorti du rouge avec un chiffre d'affaires de 455 millions d'euros l'an dernier, une hausse de 25% sur un an, 13 millions de passagers. Et puis, vous l'avez dit, ses actionnaires fondateurs, dont l'ex-patron de Ferrari notamment, qui voulait introduire la société en bourse, s'est résolu à la vendre aux Américains, une offre de rachat qu'ils ne pouvaient pas refuser. 2 milliards d'euros mis sur la table par le fonds américain GIP. Et ça a dû donner certainement des regrets à la SNCF. L'entreprise publique française faisait partie des actionnaires au lancement de la société NTV avec 20% des parts. Et l'accumulation des pertes au début ont eu raison de la patience des dirigeants français qui ont jeté l'éponge en 2015 à l'occasion d'une augmentation de capital à laquelle la SNCF avait refusé de souscrire.
Et Olivier, rapidement, l'opérateur public est devenu quoi du coup?
Le groupe public Ferrovie dello Stato, qui n'aime pas qu'on le concurrence sur sa chasse-garde italienne, lui en revanche aime aller chasser de nouveaux marchés à l'étranger. Exactement. Il veut, en ce qui concerne la grande vitesse, devenir le constructeur de référence sur les lignes dans les régions qui accusent un fort retard, notamment au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique, en Asie du Sud-Est. En Europe, le groupe public italien entend profiter dès 2020 de l'ouverture à la concurrence imposée par Bruxelles. En 2026, Ferrovie dello Stato espère réaliser 23% de ses recettes à l'étranger, contre 13 actuellement. L'an dernier, il a même investi plus de 80 millions d'euros pour traverser la Manche en rachetant une ligne britannique qui relie la capitale à la région du South Essex. En FS détient 100% de Telo. En Allemagne, 51% de Netera, troisième opérateur ferroviaire dans le pays. Et puis il a racheté l'an dernier le groupe Trainose à la suite de sa privatisation en Grèce. Il a même des vues maintenant sur les liaisons Paris-Bruxelles.
Voilà, bah c'est ce qui s'appelle savoir se diversifier. Effectivement, aller chez les voisins européens. Merci beaucoup Olivier Tosseri. Il nous reste juste une petite poignée de secondes. Michel Kidor, et pardon de vous poser la question, mais enfin le président de la Fédération européenne des usagers des transports, c'est vous. Le meilleur endroit en Europe pour prendre le train, c'est quel pays ?
Ah, écoutez, c'est, le meilleur pays se trouve pas en Europe. Il s'appelle la Suisse.
Ah.
Mais c'est une petite boutade. je pense qu'on a des services ferroviaires excellents à part la Suisse, notamment en Allemagne. En Allemagne, vous avez un service cadencé non seulement au niveau régional, mais au niveau national. Vous avez, par exemple, quand vous êtes à Cologne, vous avez un train pour Berlin toutes les heures ou toutes les deux heures, ou toujours à la même heure. Vous avez des trains fréquents également dans des pays qui sont extrêmement denses de population, comme les Pays-Bas. Vous avez la Suède qui a redéveloppé de la qualité. Donc on a effectivement un certain nombre de modèles. Moi, je pense que le modèle allemand est un modèle de référence parce qu'il a été mis de manière souple en place. Mmh. Aujourd'hui, les opérateurs concurrents des chemins de fer nationaux allemands ont 30% de part de marché du régional. Mais globalement, l'ADB, la société publique allemande et les opérateurs privés exploitent plus de trains kilomètres qu'avant l'ouverture du ferroviaire à la concurrence. Donc le service, il y a plus de trains et il y a des trains plus fréquents et c'est tout ce que les voyageurs demandent.
Michel Kidor, merci beaucoup à nous de jouer. Donc si je vous entends bien, président de la Fédération européenne des usagers des transports, merci mille fois de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Et on continue dans les rues du Caire avec Étienne Monin sur un ring de boxe au Mexique dans une voiture avec des moustiques. Alors Sandy Dauphin?
Oui, on parlera donc.
On s'excuse de vous avoir dérangé.
Excusez-moi, non, j'écoutais attentivement. Alors, si les moustiques tigres colonisent l'Europe, eh bien, on verra que c'est peut-être à cause de nous, parce qu'on fait du covoiturage avec eux. C'est ce que prouve une nouvelle étude.
Et n'oubliez pas de revenir. Donc, Jean-Marc Four dans la peau de Vladimir Poutine ce soir.
Oui, et si Poutine avait de bonnes raisons en Syrie, je sais, c'est pas politiquement correct de le dire en plein drame de la Ghouta, mais on va quand même se poser la question.
Allez, à tout de suite. Restez avec nous. Le monde continue de tourner avec un détour par l'Australie et Courtney Barnett. Nameless, faceless. Courtney Barnett sur France Inter, Nameless, Faceless. Julie Pietri est là sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Julie, vous nous emmenez ce soir sur un ring au Mexique.
Oui, écoutez. C'est un ring où tous les coups sont permis. Et c'est un ring où des hommes se battent contre des femmes. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, cette lutteuse, Princesa Legna, invite ses amis, ses fans, à venir l'admirer. Elle envoie un baiser à travers son masque coloré. Elle, ce qui la dérange le plus dans ses combats, raconte-t-elle à l'AFP, ce sont les vestiaires, parce qu'ils sont mixtes. Tu dois te changer face à eux, avec ta serviette, dans un petit coin, c'est pas terrible. Mais dans ce pays où des milliers de femmes sont tuées et violées chaque année, cette guerre des sexes spectacle pose d'autres questions. Une lutteuse, Brio de Luna, Claire de Lune, botte culotte et juste au corps à paillettes monte sur le ring et cogne un homme, le subtilement nommé Guerrero Nazi. Un spectateur lance vieille bique, retourne à la cuisine et va niquer ta mère. Et oui, ça se passe comme ça. Mais Brio de Luna ne le prend pas mal, non. C'est bien que le public masculin s'en prenne à moi, dit-elle. Tu les provoques, ils veulent te frapper, ils évacuent leur frustration ici au lieu de te taper, madame, en rentrant à la maison. Un entraîneur ose même les bleus, les échymoses, l'affrontement, ça aide les femmes à faire face à leur propre mari. Tania La Guerriera, cheveux blancs, 41 années de lutte, la retraite toute proche, n'apprécie pas. Quel message donnons-nous au public en faisant rivaliser hommes et femmes de différentes catégories, de différents poids? On génère de la violence contre les femmes. Ces combats sont organisés au Mexique une fois chaque mois.
Eh bien dites-moi, en Russie, les liquidateurs, les espions sont à l'honneur.
Ils ont passé une partie de leur vie cachée à l'étranger, ils ont tué parfois. À Moscou, ces hommes de l'ombre deviennent en ce moment des icônes, raconte le journal Le Monde, qui a visité l'exposition qui leur est consacrée depuis quelques jours. Ceux qui sont présentés au public appartiennent au passé, bien sûr, ils ne sont plus sur le terrain. Ils sont 29, tous agents clandestins, et leur portrait a été réalisé sur des feuilles d'or, des icônes. Certains de ces anciens sont là, l'un se penche dans un baise-main, des médailles accrochées au revers de sa veste. La journaliste française qui l'interroge, il glisse rassurant, nous n'opérons jamais contre la France. Ouais, l'actuel patron du renseignement extérieur russe est là, lui aussi, Sergueï Narychkine, est plutôt content. L'intérêt pour cette activité augmente, parce que ce sont bien les jeunes générations qui sont visées. Il y aurait là exemple à suivre. Une bande-annonce du SVR, les renseignements russes donc, est projetée sur les murs. Nous sommes partout où existent des menaces pour notre pays. Et un drapeau américain apparaît à ce moment-là, soudainement à l'image.
Et Julie, en voilà une autre d'icône. Ça se passe en Inde cette fois, et la presse là-bas ne parle que de ça. Il s'agit d'une femme.
Sridevi Kapoor est morte, méga star, légende de Bollywood. Elle avait 54 ans, elle était considérée comme une des plus grandes actrices du cinéma indien. Elle a été retrouvée dans sa baignoire à Dubaï, où elle s'était rendue pour un mariage. Une crise cardiaque est évoquée. Les funérailles pourraient avoir lieu dès aujourd'hui. Les témoignages d'admirateurs sont partout. Il est question de pleurer toutes les larmes de son corps, d'une femme qui inspirait, d'une femme de tête, de la première superstar féminine en Inde, de grâce aussi. Sridevi, d'origine tamoule, avait grandi devant la caméra. Elle a commencé à 4 ans, 300 films au total, où elle mêlait formidablement chant et danse. Elle avait fait une pause, 15 ans hors chant, avant de revenir au cinéma en 2012, dans le rôle d'une mère de famille indienne qui s'émancipe.
Voilà, l'Inde, donc en deuil, qui a perdu sa star de Bollywood. Merci beaucoup, Julie Pietri. On se retrouve demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo.
Beyrouth,
France Inter.
Un jour en Égypte, ce soir pour l'escale reportage d'Un jour dans le monde. L'Égypte qui se prépare à son élection présidentielle. La campagne vient d'être lancée. Le scrutin, c'est dans un mois, quasiment jour pour jour. Ce sera les 26-28 mars pour le premier tour. Mais qu'importe finalement, puisque le scrutin est déjà largement verrouillé. Le président Al-Sisi sera reconduit, faute de concurrence crédible. Bonsoir à vous, Étienne Monin.
Bonsoir Fabienne.
Vous allez nous expliquer, Étienne, en quoi cette élection a lieu dans un contexte de très forte austérité. Ce sera dans tout petit instant, mais d'abord, vous revenez du Caire, parlez-nous du climat dans lequel se joue ce scrutin.
C'est un climat à la fois qui est oppressant et invisible. Il n'y a pas de démesure dans le contrôle policier, mais on peut parfois, au détour d'une interview, sentir la peur qui existe aujourd'hui auprès de ceux qui sont investis dans la politique. Finalement, cette élection a une valeur et une seule. Elle permet aujourd'hui de mesurer l'ampleur de la politique répressive en Égypte. C'est une photo après 4 années de pouvoir El-Sisi. Cette politique-là est décrite par les anciens de la place Tahrir comme une société qui est devenue entièrement contrôlée par le renseignement militaire, au sein de laquelle ces gens-là n'ont ni travail satisfaisant ni accès aux médias traditionnels. Les ONG décrivent de leur côté une culture de la terreur avec des arrestations massives, la multiplication des disparitions, une pratique institutionnelle de la torture et des restrictions de liberté sur Internet.
Et finalement, Étienne, Abdel Fattah al-Sissi, qui avait été élu démocratiquement, il faut se souvenir de ça quand même, en 2014, s'est préparé une succession sur mesure. Il n'y a pas de choix dans ce qu'on a même du mal à appeler une élection finalement.
Oui, tous les candidats crédibles ont été écartés, arrêtés pour certains, inquiétés pour d'autres. Il n'y a pas d'espace pour l'opposition ou pour les opinions contraires dans cette élection. Le seul candidat face au président sortant lui est favorable. Dans la rue, on ne voit que les portraits géants d'Abdel Fattah al-Sissi. C'est un plébiscite plus qu'une élection qui est organisée. L'enjeu portera donc sur la participation. Des partis d'opposition appellent au boycott. Les médias soutiennent le processus. Ils encouragent la mobilisation. La participation est en chute depuis l'élection de Mohamed Morsi qui avait mobilisé un électeur sur deux et rappelons-le, à l'époque de Moubarak, cette mobilisation plafonnait à 25%.
Alors Étienne, le climat on comprend et puis il y a aussi le contexte et un double contexte générateur de tensions. D'abord le terrorisme et la poursuite des attentats et puis la perte vertigineuse du pouvoir d'achat qui fragilise les plus défavorisés pour tenter de relancer une économie qui est à genoux. L'Égypte s'est lancée dans des projets pharaonique, sans mauvais jeu de mots, dont la construction clé en main d'une nouvelle capitale administrative. Vous allez nous la faire visiter, Étienne.
Et de cette ville champignon, on ne voit pour l'instant que des blocs d'immeubles encore en construction, des kilomètres de routes neuves parcourues par les camions et une coupole blanche qui ressemble au futur parlement égyptien. On est au milieu du désert. Le projet a été lancé il y a pile 3 ans par le président égyptien et la société en charge du chantier promet une inauguration pour l'année prochaine. La future capitale n'a pas encore de nom, mais une ambition, être le nouveau visage de l'Égypte, explique Khaled Soliman en charge de la communication.
La ville du Caire souffre d'embouteillages, les infrastructures sont insuffisantes, c'est bondé partout, ce n'est pas assez beau. C'est pour toutes ces raisons qu'on a lancé et conçu la nouvelle capitale qui sera à la pointe dans tous les domaines. On veut que ce soit notre nouvelle image, le nouveau visage de l'Égypte.
Cette future capitale administrative est tentaculaire. La surface fait 7 fois Paris intramuros. La première tranche comporte 200 000 logements, 24 ministères, un opéra, le palais présidentiel et, entre autres, un quartier des ambassades. La société qui gère ce chantier est contrôlée par les militaires qui ont des parts dans l'économie égyptienne. C'est le bébé du président. Mais il y a au total 14 villes nouvelles en construction dans le pays. La politique des grands chantiers est utilisée comme un levier, explique Yasser Rezek. Il dirige Akbar El Yom, c'est le plus important quotidien du pays, et cet homme est un très proche du président.
Quand on parle de villes nouvelles, la construction de ces villes relance les industries en Égypte. Les usines de ciment, de fer, l'industrie de l'électronique. Et la construction fait travailler de la main-d'œuvre. Donc ça permet de diminuer le chômage.
Depuis plusieurs années, le moteur traditionnel de l'économie en Égypte est en panne. Une réforme a été lancée il y a 2 ans sur l'impulsion du Fonds monétaire international, dont les effets affectent les plus fragiles, explique l'économiste Ahmed El Nagar.
Les réformes se sont bornées à servir les capitaux étrangers et locaux. Pour rendre les services, les biens et le matériel moins chers en Égypte pour les investisseurs étrangers et pour les touristes. Mais en même temps, elles ont fait exploser l'inflation, ce qui a provoqué l'érosion du pouvoir d'achat et une baisse de salaire des classes moyennes et des catégories pauvres en Égypte.
Tarek Sami a donc dû changer son mode de vie pour faire face aux difficultés économiques. Il appartient à la classe moyenne. Il a perdu 2 fois son travail. Il a réduit son horizon pour faire face à l'augmentation de certaines factures.
Eh bien, je reste à la maison. J'essaye de dépenser le moins possible en limitant mes déplacements. Un exemple de prix, dans les 4 derniers mois, j'ai payé plus pour la facture d'eau que pour l'électricité.
« Il y a des critiques sur ces grands projets. Elles portent avant tout sur le fait que l'impact est limité dans le temps pour cette tentative de relance de l'économie. L'important, par contre, c'est que ces villes permettent de gagner sur le désert. Les Égyptiens vivent actuellement sur seulement 7% de leur territoire.
Étienne Monin en Égypte, merci beaucoup Étienne. Les élections donc sont prévues en Égypte les 26 et 28 mars prochains. Évidemment, nous y serons dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Es.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Le feuilleton environnement et Sandy Dauphin qui essaye de verdir et refroidir la planète. Bonsoir Sandy.
Bonsoir.
Vous êtes là et bien là donc cette fois, je suis contente. Ce soir, vous voulez nous parler de ce fameux moustique tigre, donc qu'on reconnaît parce qu'il a réellement des rayures. Un moustique très surveillé parce qu'il y a des risques sanitaires, vecteur potentiel de maladies comme la dengue, comme le chikungunya, comme le virus Zika aussi. Il se propage en Europe et on se demandait comment il se propageait aussi bien en Europe. Vous avez la réponse, eh ben en voiture.
Eh oui, la première fois qu'un moustique tigre a été signalé sur le continent européen, c'était en 1979 en Albanie. Depuis, il a fait du chemin, il a colonisé le nord de l'Italie, tout l'arc méditerranéen entre Nice et l'Espagne. Et aujourd'hui, il remonte vers le nord, on le retrouve dans 33 départements français. Il y a aussi des signalements en Belgique, aux Pays-Bas et maintenant en Allemagne. Ce globe-trotteur, originaire d'Asie du Sud, a changé de continent grâce au commerce international, notamment au commerce de pneus usagés. Il y a souvent un peu d'eau au fond des vieux pneus. La femelle y pond ses œufs. Des œufs très résistants à ce qu'on appelle la dessiccation, c'est-à-dire à l'assèchement. Une fois pondus, ils peuvent survivre pendant 6 mois avant d'être mis à l'eau. C'est pratique pour voyager. On savait donc que les moustiques tigres prenaient le bateau. L'énigme était de savoir comment cet insecte pouvait parcourir autant de kilomètres sur Terre alors qu'il est très casanier. Dans sa vie, le moustique tigre ne parcourt pas plus de 200 ou 300 mètres tout seul. Et bien voilà, cette étude publiée dans le journal Scientific Report confirme une hypothèse.
Et donc l'hypothèse, c'est que ce moustique fait du covoiturage.
Oui, il circule en voiture. Pour en avoir le cœur net, les chercheurs, une équipe franco-espagnole, se sont postés au péage d'une autoroute au nord de Barcelone. Et ils ont demandé aux automobilistes s'ils pouvaient vérifier qu'ils ne transportaient pas de moustiques tigrés à bord. Un travail de terrain fastidieux. David Roiz, entomologiste à l'IRD, l'Institut français de recherche pour le développement, co-auteur de cette étude.
On a arrêté des véhicules dans les aires de péage. La police les demandait l'identification les conducteurs. Elle expliquait que c'était pour collaborer pour une étude scientifique. Et après, un collègue faisait un entretien aux conducteurs d'où ils venaient, s'il avait vu des moustiques dans les voitures. Et une autre personne faisait une aspiration dans la partie de derrière des véhicules et aussi dans les sièges du copilote. On a trouvé 4 moustiques sur 770 voitures. On pense que c'est déjà une bonne quantité.
Oui, ça fait environ 5 voitures sur 1000 qui pourraient transporter ce passager clandestin qui pique. Imaginez le chassé-croisé des vacances d'été.
Alors, on peut aider la science, nous, à suivre la trace de cet envahisseur.
Oui, les chercheurs misent sur la science participative. C'est la grande mode pour cartographier les déplacements du moustique tigre à l'échelle internationale. Donc, ils ont mis en place une application pour téléphone portable pour signaler sa présence dans votre voiture. Son nom est en anglais, mosquitoalert.com. En France aussi, les autorités sanitaires ont mis en place un site internet de surveillance participative qui s'appelle signalement-moustique.fr. On est invité à envoyer une photo du moustique tigre qu'on aurait repéré. Alors attention Fabienne,
c'est pas
le
super
site
pratique, hein.
Précise.
N'oubliez pas de vous garer avant de prendre la photo du moustique.
Voilà, et il faut surtout une photo où il est reconnaissable. Sous-entendu,
tournez-vous.
Si vous l'avez écrasé avec votre tatane, c'est pas la peine d'envoyer la photo, c'est trop compliqué.
Et ça va s'arrêter où cette invasion quand même sérieusement du moustique tigre?
Eh bien là où il fera vraiment trop froid, le nord ou
aujourd'hui
bien
donc.
Voilà, le centre de l'Europe par exemple. Même si les œufs de moustiques tigres sont résistants à l'hiver, ils ont un super pouvoir ces moustiques, la diapause, ils hibernent en quelque sorte, ce qui leur permet de passer l'hiver pour se réactiver au printemps. En plus, le réchauffement climatique va rendre plus le réchauffement climatique va rendre les hivers doux, et bien plus le moustique tigre risque de se propager.
Voilà, donc on a bien compris, on prend en photo le moustique tigre, on le poste sur mosquitoalert.com. Bien avant de l'écraser, mais ensuite on l'écrase. Sandy Dauphin, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Es. sur France Inter.
Et Jean-Marc Four pour Le Monde à l'envers sur France Inter et dans Un jour dans le monde comme tous les jours. Jean-Marc Four, vous nous emmenez en Égypte, en Syrie, à la recherche de ce qui se passe en ce moment dans la Ghouta, où il se passe encore des choses en ce moment, avec cette question quand même, et si Vladimir Poutine n'avait pas complètement tort, et si Vladimir Poutine, au final, ne pouvait pas faire différemment?
On peut faire dans l'incantation, évidemment pleine de bons sentiments, marteler que la Ghouta vit depuis 8 jours l'enfer sur Terre, c'est la formule employée par le secrétaire général de l'ONU, relever que les armes les plus épouvantables, y compris chimiques, sont probablement utilisées contre la population civile, et pointer du doigt les responsabilités d'Assad et de Poutine, tout cela est vrai. Mais l'indignation ne suffit pas. Et pour y comprendre quelque chose, on doit regarder en effet comment Moscou résonne dans cette affaire. On espère que c'est ce qu'est allé faire aujourd'hui Jean-Yves Le Drian, qui a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou. Poutine a ses raisons, et elles ne sont pas toutes mauvaises. La première motivation, et les pays occidentaux la partagent, c'est de lutter contre le terrorisme et les islamistes sunnites. La Russie y est sensible parce que, vous le savez, cet extrémisme prospère à ses portes, dans le Caucase ou en Asie centrale. En l'occurrence, Moscou affirme à juste titre, que la Ghouta abrite bien sûr des centaines de milliers de civils, mais aussi plusieurs groupes islamistes radicaux. Jaïs al-Islam ou Ayat Tahrir al-Sham, anciennement liés à l'Al-Qaïda, des groupes qui refusent de quitter la Ghouta sans une garantie d'impunité. Deuxième objectif, et là encore les Européens sont d'accord, protéger les chrétiens d'Orient, en particulier ceux qui vivent à Damas et qui sont régulièrement visés par ces groupes islamistes. Enfin, la troisième préoccupation, c'est l'ordre. Le président russe, je crois que ça n'a échappé à personne, aime bien les situations simples où pas un cheveu ne dépasse. En termes officiels, ils appellent ça pompeusement « sauvegarder l'intégrité de l'État syrien ». Un pays, un État, un dirigeant, ça vous rappelle sans doute quelque chose, Ein Volk, Ein Reich, etc. Une Russie, un Poutine, une Syrie, un Assad.
Mais enfin, tout ça, c'est surtout le règne de la force, quoi.
Absolument, mais dans une guerre, autant le dire crûment, c'est quand même ce qui compte. Et en Syrie, la Russie a gagné, en tout cas sur le terrain militaire. Et en plus, elle a gagné, passez-moi l'expression, haut la main. Elle a gagné parce qu'elle a adopté une stratégie efficace, le contrôle de l'espace aérien. Avec un minimum d'avions, 70, pas plus, quelques hélicoptères d'attaque de dernière génération et un dispositif de missiles sol-air et mer-air, le tout pour un coût assez faible, estimé 4 fois moins important que l'investissement américain dans cette même Syrie. Et, pardon d'être cynique, avec un nombre de victimes civiles à la clé qui est réel, c'est vrai, mais qui n'est pas supérieur au nombre de victimes civiles imputables aux frappes occidentales. Donc la Russie a gagné. Et elle fait quoi? Elle fait ce que tous les pays feraient, capitaliser sur cette victoire militaire. Préserver l'acquis, c'est-à-dire ses deux bases sur le sol syrien, en particulier celle de Tartous, essentielle pour elle, c'est sur la Méditerranée, mais aussi promouvoir ses ventes d'armes, essayer de contrôler aussi, fût-ce indirectement, les futurs gazoducs qui vont passer par le nord de la Syrie. Enfin, last but not least, avec ce succès militaire, Moscou est devenu l'interlocuteur indiscutable pour tout le monde dans la région. Les Iraniens, les Israéliens, les Saoudiens, les Qataris, les Palestiniens, etc. Poutine aurait donc tort de se priver, si vous voulez, parce que dans ce grand jeu géostratégique, Moscou est pour l'instant le principal vainqueur de la guerre en Syrie.
Oui, Jean-Marc, sauf que Poutine semble avoir beaucoup de mal à contrôler Assad quand même.
Ah, c'est vrai. C'est là où ça se complique pour Moscou. On a l'impression que ce n'est plus le marionnettiste qui tient la marionnette, mais l'inverse. En 2015, Poutine a volé au secours d'Assad, mais maintenant qu'Assad est sauvé, il échappe à Poutine et il n'a plus qu'une obsession, on a bien compris, massacrer tous ses adversaires. Les événements d'aujourd'hui sont révélateurs. Hier soir, Vladimir Poutine ordonne, vous avez bien entendu, ce sont les termes du communiqué du Kremlin. Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu quotidien humanitaire à la Ghouta. Ça veut dire en résumé, Assad couché au pied. Sauf que le chien continue de mordre. Nouveau bombardement ce matin, on l'entendait dans le journal de 18h. Vladimir Poutine est assez intelligent pour le savoir. Construire la paix, c'est toujours beaucoup plus compliqué que de faire la guerre. Et c'est tout le défi que le président russe doit maintenant relever. Mais les gouvernements occidentaux seraient bien mal inspirés de lui faire la leçon, vu les bilans des interventions occidentales en Irak en 2003 et en Libye en 2011.
Le Monde à l'envers, c'est signé Jean-Marc Four, tous les jours dans Un jour dans le monde sur France Inter. Merci beaucoup. Le 18-20 replonge en France dans un instant avec le téléphone sonne. On parlera de glyphosate. Est-ce que oui ou non l'agriculture peut se passer de ce fameux glyphosate? Il serait peut-être temps de nous aider à répondre à cette question. On dit dans 3 ans c'est fini, mais on parle aussi d'exception, de substitution progressive, c'est ce que dit la FNSEA, mais tout ça, ça prend combien de temps? Une culture toute propre, est-ce que ça existe sans changer de modèle? Vos questions, c'est au 01 45 24 7000 comme d'habitude, et c'est juste après ça, il est 19h.